Chers frères et sœurs, contre toute attente, il y a encore 3 mois à peine, nous voici au point où nous constatons que finalement, il y a encore plus menaçant que les menaces naturelles. Il y a encore plus grave que les risques naturels. Il y a plus facile à surmonter que les misères naturelles. Quand on doit faire face aux misères sociales. Notre société française a manifestement, si ce n'est pas le cas, vous nous traiterez de pierre plus tard, réussi à faire face rapidement à la pandémie due au coronavirus. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus désemparées pour faire face à la succession de crises qui sont en train de voir le jour en Occident. Après la crise majeure qui a arrêté tout le monde dans son élan, Église incluse, voici le temps où des crises, où beaucoup prennent leur élan dans un sens qui est en train de déchirer la société. La vérité que ce phénomène n'a rien de nouveau, à la limite, il pouvait même être prévisible, parce que cela arrive à chaque fois. Après chaque crise majeure qui les ont pénalisées, les sociétés ont toujours connu des soubresauts de division des uns contre les autres. Il y a toujours eu ces soubresauts, ces élans qui ont toujours eu comme point commun la tyrannie de la pureté. Après la Première Guerre mondiale, ce fut la montée des fascismes et la tyrannie de la pureté raciale. Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut la montée du macartisme et la tyrannie de la pureté idéologique. Après le choc pétrolier, ce fut la montée de la xénophobie et la tyrannie de la pureté de souche. Et aujourd'hui, il y a des élans pour purifier la mémoire collective, notre histoire, de ce qui a fait d'une manière ou d'une autre au colonialisme sous couvert de chasse au racisme. Et viendra le jour où nous parlerons peut-être de la tyrannie de la pureté morale. Ayant fut de même pour le peuple hébreu après les catastrophes de la défaite du royaume du Nord en 722, puis de la défaite du royaume du Sud en 586 avant Jésus-Christ. Ces deux catastrophes furent suivies d'exil, et c'est du retour d'exil dont parle le prophète Amos. Les suites de ces deux chocs, qui furent suffisamment forts pour que les gens se mettent d'ailleurs à écrire les textes bibliques, pour garder la mémoire de ce qui s'était passé, pour essayer de tirer des leçons à offrir aux générations suivantes, nous-mêmes. Les suites de ce retour d'exil, les suites de ces deux catastrophes sociales, nationales, furent également marquées par la tyrannie de la pureté, une sorte d'hygiénisme de la pensée. C'était la traque du divergent, la traque de celui qui avait été fautif et qui ne l'était plus forcément. À chaque fois, il y a comme un besoin d'expier. Et pour cela, il faut trouver les victimes sacrificielles. Il fallait expier le fait d'être encore là, survivant d'une catastrophe, comme si cela allait de soi. Il fallait retrouver l'unité d'une société qui avait été fragmentée, qui avait été tiraillée entre plusieurs options possibles. Et pour refaire l'unité, rien de tel que le principe du bouc émissaire. Et voilà la grande affaire de toutes ces époques qui ont succédé à des catastrophes de grande ampleur. Voilà donc ce dont nous avons aussi la trace dans les textes bibliques, notamment à l'époque d'Esdras et de Néhémie. ne se sont pas contentés de nous décrire ce qui s'était passé à l'époque de cet élan pour une pureté ethnique marquée par l'interdiction des mariages mixtes. Mariages mixtes dont il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas simplement d'éviter d'épouser un non-juif. Il s'agissait aussi pour le Royaume du Sud, pour les Judéens, de n'épouser personne du Royaume du Nord, de n'épouser aucun Samaritain. Il y avait un cloisonnement, une véritable distanciation sociale qui était de vigueur pour préserver la pureté de la société et la pureté de la foi. Alors les théologiens d'époque se sont mis à écrire pour offrir une alternative sous forme d'oracle, oracle de l'Éternel, des contre-propositions, une idée de ce que pourrait être une société qui ne cède pas à ce principe bien facile du bouc émissaire et du déboulonnage d'une société installée. Les théologiens de l'époque ont donc développé une pensée alternative dont nous trouvons un écho dans ce livre du prophète Amos, qui a exercé sa vocation au 8e siècle, au moment de la défaite du royaume du Nord, et dont les actes et les paroles ont été complétés après la chute du royaume du Sud, au 6e siècle, 2 siècles plus tard, et puis complétés à nouveau au moment du retour d'exil. Vous voyez, ce travail d'écriture et de réécriture, loin de fragiliser le texte biblique, loin de nous faire dire du coup cela n'a aucune valeur, nous fait comprendre que le texte biblique est d'une épaisseur de sens inestimable. Parce que ce travail d'écriture, de réécriture, d'interprétation est une manière scientifique finalement d'établir un dialogue incessant entre les convictions et les réalités auxquelles nous sommes affrontés. Le véritable travail théologique est là, faire tenir une société devant Dieu. C'est-à-dire se tenir devant ce qui a pour nous valeur d'absolu, ce qui a un caractère éminemment sacré, et revisiter nos convictions lorsque cela est nécessaire. Lorsque notre foi, pour lequel d'une manière religieuse, n'est plus capable de nous aider à bien comprendre ce que nous vivons et n'est plus capable de nous permettre de penser ce que nous pourrions vivre. Alors ce passage que nous avons lu ce matin aborde beaucoup de questions qui nous ont préoccupés durant le confinement et qui nous taraudent aujourd'hui. Dieu détruit-il ? Est-il derrière tous les événements de notre histoire? Un salut, une restauration sont-elles possibles? Quel pourrait être le monde d'après? Le monde va-t-il inévitablement se défaire? Selon un calendrier maya, la fin du monde serait pour cette semaine. Tout cela est assumé notamment par ce texte, qui ne propose ni programme politique, ni plantin pénal, ni changement de régime. Tout cela est assumé par notre texte, qui ne nous dit pas que faire, mais qui être. Qui être ? L'alternative est la suivante. Au lieu de se diviser sur ce qu'il faut faire, réunissons-nous sur ce que nous pouvons être. Au lieu de faire une compétition sur les mesures à prendre ou à rejeter, coopérons sur l'identité que nous pouvons faire émerger. Oui, il y a à faire, beaucoup à faire, mais il y a d'abord à être. Et tant que cette question de l'être ne sera pas travaillée, et dans une certaine mesure ne sera pas résolue, tout ce que nous ferons ne servira à rien. Pire que cela, nous allons voir. Notre première tâche, et je vais le dire d'abord de façon théologique, c'est de retrouver le chemin de l'Éternel, ce que nos textes bibliques nomment par quatre lettres en hébreu, translittérées par YHWH, la racine du verbe ayah, qui signifie faire advenir. Notre première tâche est de retrouver le sens de ce verbe, advenir, être, et de comprendre que ce que les textes bibliques nous disent au sujet de cela, c'est que l'être n'est pas à comprendre au sens d'un état. Je suis une table, je suis une poule, quelque chose qui serait définitif, une identité figée, ghettoisée. Mais l'être, compris comme une identité dynamique, l'être en devenir, cette commune espérance que la Bible nomme donc Yahvé, ce qui fait advenir, ce qui porte à l'existence. Commençons par cela, le chemin de Yahvé. Vous me direz qu'il est peut-être un peu ridicule de proposer comme alternative aujourd'hui à la société montpelliéraine, par exemple, de chercher le chemin de Yahvé. Autant cela peut être audible dans un temple, une synagogue, même une mosquée, autant, une fois qu'on est dans la rue, dans le tramway, on risque de passer surtout pour un illuminé. Alors, interprétons ce que signifie le chemin de Yahvé. Et commençons par comprendre ce que peut être le chemin de l'être. Tournons-nous vers Dieu pour que tout s'arrange et que la concorde prenne le pas sur les divisions. Tout cela peut sembler bien naïf. Cela peut sembler acceptable dans le cadre d'un culte. Tout le monde est là. Tout à l'heure, tout le monde paiera, en quelque sorte, pour qu'on dise ce genre de choses. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier une fois qu'on est sorti du temple? Repartons du verset 7. L'oracle ou l'Éternel exprime ceci, je cite, « N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, fils d'Israël? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Kaphtor et les Syriens de Tyr ?» Pris au pied de la lettre, cet oracle dit que Dieu est un personnage qui a libéré plusieurs peuples, qui était jusque-là réduit en esclavage. Et cela nous apprend déjà quelque chose, et cela enseignait déjà quelque chose aux Israélites de l'époque d'Esdras et de Néhémie, qui cherchaient la pureté ethnique, qui cherchaient l'isolationnisme pour préserver l'identité et la réalité de leur peuple. Ce que cela nous apprend, c'est que tous, Éthiopiens, Philistins, les ennemis jurés d'Israélites et non des Israélites, partagent la même condition. Et ils partagent la même condition que tous les autres qui ne sont pas encore nommés. Ils sont au bénéfice de la même grâce de l'Éternel. Ce qui signifie que l'Éternel a une dimension universelle qui nous met en relation les uns avec les autres sur un registre d'égalité. Même les Philistins, les ennemis héréditaires, ceux qu'il fallait terrasser, sont au bénéfice de la grâce de ce que la Bible nomme l'Éternel. La grande vérité qui émerge de la première lecture, c'est que notre identité particulière est transcendée par cette dimension universelle que la Bible nomme Yahvé et que notre traduction rend par l'Éternel. Vous voyez ce qui me frappe? C'est qu'il y a encore quelques semaines, nous étions bien tous conscients de cela. Nous étions bien tous conscients que nous partageons tous la même condition. Parce que nous partageons tous la même fragilité, la même vulnérabilité face au coronavirus. Et au fond, nous étions traversés par les mêmes peurs, par les mêmes inquiétudes, qui traduisaient, en creux, en négatif, la même espérance. Ce désir de ne pas
être malade,
ce désir de ne pas mourir, ce désir de ne pas perdre un être cher.
Traduisez en vœux le désir de vivre. Non pas ce que vous voulez vôtre,
mais de vivre
en compagnie de cet autre semblable, lui-même extrêmement vulnérable. Nous étions conscients de partager une même condition. Nous étions conscients qu'il y avait un caractère universel à nos humanités. C'est ce que dit ce texte.
Et ce texte va plus loin. Lorsqu'il y a cette phrase un peu pénible pour nos oreilles contemporaines et protestantes, parfois un peu libérales, Dieu qui porte son regard sur le peuple coupable. Mais il y a là une vérité qu'il ne faut pas esquiver, car elle est fondamentale dans la construction de l'identité humaine, ce qu'on appelle l'anthropologie. Nous sommes des êtres vulnérables, comme le disait François dans la prière de repentance. Nous sommes des êtres pécheurs. Le péché est là, pour notre fragilité, pour notre incapacité à faire exactement ce que notre vocation nous appelle à faire. Et c'est cela. Les textes bibliques, notamment avec le prophète Amos, nous invitent à ne pas oublier. Lorsque nous avons la tentation d'exercer un travail de purification des mémoires, un travail de recherche de pureté morale, lorsque nous voulons éliminer tout ce qui est un peu défaillant, tout ce qui est un peu divergent, tout ce qui n'est pas dans la norme, dans l'idéologie du moment, nous sommes toutes et tous pécheurs. Nous avons toutes et tous des choses à nous reprocher. Nous avons toutes et tous des choses dont nous ne sommes pas très fiers. Et nous sommes aussi toutes et tous pardonnés. Nous sommes toutes et tous au bénéfice de cette grâce de l'Éternel, inscrite dans ce texte dont je vais encore vous parler. Allons plus loin dans l'interprétation de ce verset, cet oracle que je vous ai relu, qui ne peut pas satisfaire les non-croyants à ce seul niveau de la lecture. Parce que dès qu'on dit Dieu, les oreilles se ferment et le cerveau est déconnecté. Acceptons cela. Prenons cela comme une exigence de faire un vrai travail d'interprétation pour tout un chacun. N'en restons pas simplement aux formules religieuses qui sont souvent une sorte de cache-sexe à une pensée qui n'a pas du tout été élaborée. Reprenons ce que symbolise Yahvé. Reprenons ce que symbolise l'Éternel. Yahvé, l'Éternel, c'est ce qui crée le monde en donnant une place et une fonction à chaque élément de ce monde. Et par la suite, après le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode, Yahvé, c'est ce qui libère les êtres de tout ce qui les déshumanise, de tout ce qui les rend esclaves, de tout ce qui les empêche d'être libres, libres d'être des hommes, libres d'être des femmes, libres d'exister au sein de cette création, au sein d'une histoire qui a le sens du bien-être. L'Éternel, c'est ce qui crée, l'Éternel, c'est ce qui libère, et avec ce prophète Amos, nous entendons qu'il le fait pour tous. Il y a une dimension universelle. Alors laissons de côté les églises, laissons de côté le culte, les catéchismes, laissons de côté les repas paroissiaux, et n'ayons Dieu que pour l'Éternel. Faisons abstraction de tout ce que la religion a pu produire pour sensibiliser les hommes à ce que Dieu signifie dans notre existence. Concentrons-nous sur les données bibliques. Nous avons Dieu qui crée, et Dieu qui libère, d'une manière universelle. Dieu dont le nom signifie Adonir. Et bien il y a là la manière par laquelle les rédacteurs bibliques ont essayé d'exprimer cette vérité fondamentale. Chaque être humain bénéficie au même titre que les autres de cette puissance de création et de libération à l'œuvre dans le monde. Nul ne saurait être privé d'une partie de cette grâce qui consiste à avoir sa place dans le monde,
et à pouvoir exercer ses talents en toute liberté.
Voilà le chemin de Yahvé que nous devons révéler à nos contemporains. Ce qui traduit de façon aussi compréhensible que possible consiste à trouver les moyens que personne ne soit exclu de notre société et que tout le monde puisse développer son esprit d'entreprise. Que chacun puisse apporter sa contribution. Alors oui, revenons sur quelques autres affirmations un peu compliquées de ce texte. Oui, l'Éternel peut toucher la terre de telle sorte qu'elle s'effondre au sens où il y a à notre disposition tout ce qu'il faut pour intervenir dans la marche du monde. Dieu, en tant que ce qui crée et ce qui libère dans le monde, est à notre disposition pour intervenir partout où il y a des situations à changer. Dieu n'est pas ce qui garde les choses en l'état. Ce n'est pas le grand conservateur du monde. Dieu n'est pas ce qui maintient le monde dans une sorte de phase neutre. Dieu, c'est le fait qu'il y a dans notre histoire de quoi faire advenir la possibilité de rendre le monde plus vivable, quitte à mettre fin à des situations d'injustice. Dieu, c'est ce qui fait advenir des degrés supérieurs de liberté. Lorsque nous commençons à être allés au bout de notre histoire, quitte à mettre fin à des régimes d'oppression. Dieu, c'est l'être, non pas au sens d'un être particulier doté de superbes pouvoirs. Dieu, c'est la source de l'être, ce qui nous autorise à être, ce qui nous rend capables d'être humains. C'est l'être qui advient au monde. Et lorsque plus loin, il est donc dit que l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable, qu'il le détruira de la surface de la terre, mais ne l'exterminera pas pour autant. C'est une manière de dire que l'être n'a jamais dit son dernier mot. La puissance de vie n'a jamais dit son dernier mot. Et là, même lorsque nous pouvons être un peu accablés, résignés, que nous sommes usés de lutter pour la vie, eh bien, ce texte nous dit qu'il y a toujours cette puissance de vie, l'être disponible pour remettre un jeton dans la machine. Il est possible de secouer les institutions encore une fois. Il est possible de secouer les individus encore une fois. Il est possible de secouer les situations encore une fois pour les débarrasser de leur turpitude, pour leur permettre d'être véritablement. Alors, retrouver le chemin de l'Éternel, c'est retrouver le chemin de l'être, de cette identité qui doit être travaillée pour qu'elle puisse s'épanouir et guider tout le reste. Le chemin du fondement de l'être, du fondement de notre identité, nous fait comprendre que notre identité n'est jamais figée et certainement pas sur le passé. Vous voyez, lorsque Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, cela dit bien que la vie et la vérité ne sont jamais des données définitives. Il y a toujours un chemin à emprunter. Et qu'on n'en finit jamais d'avancer sur ce chemin de la connaissance de ce qu'est une vie bonne et de ce qu'est la vérité de celui que je crois sur ce chemin. Vient alors le deuxième moment de cette alternative d'après crise proposée par le prophète Amos. C'est le temps de l'action, enfin, mais pas avant d'avoir dit la question de l'être, de l'identité. C'est le temps de l'action qui n'a pas pu faire l'économie du travail préalable sur l'identité. Car nous ne pouvons rien faire tant que nous ne sommes pas, tant que nous ne savons pas qui nous sommes, tant que nous n'avons pas adopté notre identité, tant que nous ne sommes pas devenus une âme tendue vers un idéal, cet idéal de vie que la Bible nomme Dieu, qui consiste à créer et à lire. Tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas agir.
Ou alors, si nous agissons, nous agirons en opposition. Or, à la manière des jeunes gens qui se cherchent, et en se cherchant, s'opposent à leurs parents. Et si leurs parents ne font pas face, ils s'opposent à leurs enseignants. Si leurs enseignants ne font pas face, ils s'opposent aux forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre ne font pas face, ils s'opposent à la société, puis à eux-mêmes, en retournant cette quête de soi contre eux-mêmes. Quand il n'y a plus aucun vis-à-vis qui assume ses responsabilités, c'est-à-dire qui accepte de répondre à ce formidable défi lancé par les plus jeunes de savoir ce qu'ils sont et ce qui leur est permis d'être. Tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nos actions sont destructrices. Voilà pourquoi il convient de ne pas agir avant de savoir qui nous sommes, avant d'avoir compris que nous avions une place ici et que nous étions libres de pouvoir exercer les talents qui nous ont été confiés. Car si nous ne savons pas qui nous sommes, la seule chose que nous savons, c'est ce que nous ne voulons pas. Comme ces jeunes qui cherchent à s'orienter au moment du bac, certains ont encore un peu le temps, et qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui du coup ne peuvent rien faire, du moins rien de constructif. Ils ne peuvent que s'opposer, car ce que l'on ne veut pas, forcément, on n'a plus trop envie de le détruire. C'est lorsque nous avons emprunté le chemin de l'éternel, et que notre identité s'est révélée, que nous savons qui nous sommes, et par conséquent ce que nous pouvons faire. C'est cela le geste créateur de Genèse 1. C'est cela le geste créateur dont nous avons tous besoin à chaque génération. Et voilà ce que nous devons faire aujourd'hui encore. Créer ce monde en lui offrant les paroles qui lui permettront de sortir du chaos. On ne sort pas du chaos par une force supérieure au chaos. On sort du chaos par des paroles qui donnent sens. À chacun, pas collectivement, à chacun. Ces paroles qui disent que tu as une place et que tu as une fonction. Genèse 1 ne fait pas autre chose. Mais c'est déjà énorme. C'est un travail foncièrement social qui n'est pas réservé aux professionnels du champ social. C'est notre première responsabilité chrétienne et citoyenne. Être responsable, c'est répondre à cette quête du sens, ce que nous appelons le chemin de l'éternel en christianisme. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas que nous sommes peut-être le moissonneur. Et du coup, nous risquons de prendre la place du laboureur. Et si le laboureur ne sait pas qu'il est laboureur, il risque de prendre la place du semeur. Et si tout cela n'est pas fait dans le bon sens, alors il n'y aura pas de moisson. Et celui qui foule le raisin au pied n'aura rien d'autre à désigner que la poussière. Et peut-être est-ce là le problème que nous rencontrons actuellement. Il n'y a que la poussière à piétiner. Ou plus exactement, il n'y aura plus que de la poussière à piétiner. Parce que nous ne mettons pas forcément les choses dans le bon ordre. Cette porte de lancement que propose ce texte biblique, c'est ce qui permet de relever la cabane chancelante de David. Cette maison à laquelle il avait été dit qu'elle ne chuterait jamais en 2 Samuel 7, eh bien elle est chancelante, mais elle n'est pas à terre. Car quelques paroles, oh juste quelques paroles, peuvent la restituer, peuvent réparer ses brèches, reconsolider ses fondations et en faire un point d'appui pour une histoire à venir. Cet ordonnancement permet de relever à cabane chancelante ce qui, à mon avis, est autrement plus intéressant que de vouloir casser la baraque ou de faire dégrader le mobilier urbain. Plus difficile, mais plus intéressant. Cela demande de l'intelligence, de la coopération, de l'énergie, de la créativité, mais c'est autrement plus jouissif. Lorsque lorsque cela se réalise.
Car la véritable joie s'exprime lorsque nous créons, lorsque nous libérons, pas lorsque nous humilions et que nous mettons à terre.
Oui, ce texte nous dit qu'il y a à notre disposition de quoi réparer les brèches, rebâtir ce qui a été dévasté, de manière à pouvoir habiter, à pouvoir se tenir ensemble, à pouvoir planter des vignes, en boire le vin, créer des jardins, en manger le fruit, autrement dit, vivre.
Le livre du prophète Amos, dans la dernière version que nous avons reçue de la tradition d'écriture et de réécriture, plutôt que de céder aux formes d'épuration qui ont toujours succédé aux crises majeures, nous encourage à penser notre identité, pour nous engager dans des actions qui accompliront notre identité et qui rendront manifeste le caractère universel de ce que nous sommes. Pour retrouver cette expérience des semaines passées, pour reconnaître dans celui que nous croiserons, celui qui est proche de nous ou celui qui est au loin, un frère, une sœur, qui partage notre condition, n'est pas simplement un frère dans la Constitution, qui n'est pas simplement un frère dans le texte biblique, mais qui est vraiment de même sang que moi. Le sang au sens biblique du terme, la vie. Alors, nous partagerons avec le reste de l'humanité cette espérance commune, inscrite dans ce texte, la possibilité de rendre le monde autrement plus fructueux qu'il ne l'est peut-être actuellement, et de pouvoir en jouir ensemble.